Niel Rose avait bon cœur, et il était chrétien. Il descendit à terre, résolu à remplir la tâche que lui avait imposée Don Geoffroy, et à donner au besoin sa vie pour sauver celle des naufragés. Telle était l'intention de Niel Rose en touchant la terre, non loin de l'endroit où fut bâtie la ville d'Audierne. Mais il aimait, et la passion conseille mal. Durant de longues heures, il resta fidèle à son poste, guettant les mouvements des gens de la côte, et prêt à paraître au moment fatal. La nuit avançait, nul vaisseau ne se montrait, point de naufragés à secourir. Les signaux de détresse avaient cessé, sans doute les navires avaient sombré en pleine eau ou sur les côtes de Sein. La présence de Niel était donc inutile. Anne, pensait-il, Anne elle-même est en péril de mort peut-être, elle m'appelle et je suis loin d'elle. Son bras ne peut résister aux efforts de la tempête, et moi je suis ici, sain et sauf, attendant une occasion qui ne peut se présenter désormais. Ses pensées tyrannisaient son esprit affaibli, peut-être par une longue et terrible maladie. Il résista tant qu'il put, mais enfin une fièvre s'empara de lui. L'obscurité s'illumina tout à coup pour son délire. Il crut voir de loin la barque d'Anne penchée sur l'abîme et déjà pleine d'eau. Il crut entendre la voix de la jeune fille qui prononçait son nom et demandait secours. Niel Rose descendit vers la grève. Il luttait encore. En ce moment, le navire français, rasant la côte comme une hirondelle rase la terre un jour de pluie, doubla le cap et disparut. Niel le crut sauvé. Il détacha une des barques du rivage et se mit à la recherche d'Anne. À cause de cela, 10 pauvres marins moururent sans confession, et Niel ne connut plus de bonheur en ce monde. Le matin trouva Don Geoffroy, le bon moine de Saint, en prière au pied de la croix. Le vent avait cessé. Un rayon de soleil levant, perçant les étroits vitraux de la chapelle, vint jeter une pâle teinte d'or sur les cheveux blancs du vieillard. Il se leva, sortit du couvent et gagna la falaise. Au large, il y avait un vaisseau qui voguait fièrement, vainqueur de la tempête. Le moine fit de l'œil le tour de l'horizon. Il n'y avait qu'un vaisseau. Un brouillard épais couvrait la côte, le bec du Raz, et le lieu où fut depuis bâtie la ville d'Audierne. Don Geoffroy avait beau regarder, son œil ne pouvait percer ce vaste linceul de vapeur qui couvrait une scène de meurtre et de pillage. Un triste pressentiment lui vint qu'il repoussa aussitôt. « Tout va bien, se dit-il. Mon fils Niel aura fait son devoir. Que Dieu le récompense !» Les matelots du brick anglais, qui avaient été sauvés, harassés de fatigue, dormaient çà et là sur le pont. Le commandant veillait. Il était debout, près d'Anne. La houle, que ne poussait plus le vent, se calmait peu à peu. Il faisait nuit encore. « Jeune fille, dit le marin, tu as sauvé un vaisseau du roi. Fixe ta récompense. »« J'ai perdu ma barque à vous servir, répondit Anne. Donnez-moi en échange le plus petit de vos canots, et laissez-moi gagner la côte. D'autres là-bas ont peut-être besoin de moi. » « Ta voix est douce, jeune fille. Non, sur ma foi, tu ne gagneras pas la côte. Dis, combien veux-tu d'or ?»« De l'or, répéta dédaigneusement Anne. Je suis la fille de Joël Braz, des îles. »« Qui est ce Joël Braz, des îles, ma fille ?» Les gens qui ont étudié dans les livres pourraient dire ce que répondit Anne, car ils savent les noms de tous les faux dieux. Ceux qui racontent, aux veillées, les récits des anciens temps, comme leurs pères les contaient avant eux, ont oublié ces noms maudits. Anne répondit que son père était prêtre des vieilles divinités de ces contrées. Le marin recula. « Et toi, dit-il, tu es sorcière ?»« Je suis chrétienne. »« Tant mieux, enfant, car ta voix est douce, et c'eût été pitié de brûler vif un si gentil pilote. Or ça, tu ne regagneras pas la côte. » Anne prit un ton grave, presque impérieux. « Je suis venue vers des étrangers, » dit-elle, « pour accomplir un des commandements de Dieu. J'ai plus d'or, sachez-le, qu'il n'en faudrait pour acheter votre vaisseau. Je resterai avec vous jusqu'au jour, afin que vous ne puissiez m'accuser d'avoir déserté une tâche commencée. Au jour, je vous quitterai. » Anne, en embrassant la foi chrétienne, avait conservé les vêtements de sa caste. Elle portait une robe de lin flottante. Son arc et son carquois pendaient sur son épaule, et les tresses de ses longs cheveux blonds étaient retenues par un diadème d'or. L'étranger ne l'avait pas encore bien vue, mais l'aurore qui se levait alors lui laissa voir le noble et beau visage de la jeune fille, que ce costume antique paraît d'une mystérieuse majesté. Le commandant la trouva si belle qu'il s'endurcit dans le dessein de la retenir à son bord. « Demoiselle, dit-il en prenant un air soumis et respectueux, je suis gentilhomme, et je puis vous faire maîtresse d'un noble manoir. Quittez ce sauvage pays de tempête, et venez avec moi, qui veux être votre chevalier et votre époux. Ce sauvage pays est ma patrie, dit Anne, et nul homme ne sera mon époux. Je suis puissant à la cour du roi, reprit l'étranger. Vous verrez des carousels, des joutes et des tournois. Votre beauté vous fera la reine des vaillants jeux de la chevalerie. Anne soupira. Peut-être, pensait-elle, qu'il y avait ici-bas un homme qui n'était ni noble, ni chevalier, mais qui seul était capable de lui faire regretter les vœux qui la liaient au ciel. L'étranger entendit ce soupir. Il la crut vaincue. « Soyez, dit-il en mettant un genou en terre, soyez désormais la dame de mes pensées, belle damoiselle. » Anne ne répondit pas, perdue qu'elle était dans sa rêverie. Le marin, encouragé par ce silence, tendit ses bras en avant. Sa main effleura le vêtement de la jeune fille. Anne se dressa de toute sa hauteur. « Arrière ! Dit-elle en portant la main sur son arc. « Sur ta vie, Anglais, ne me touche pas !» Le commandant, riant de la menace, voulut la saisir. Mais Anne, reculant à l'idée d'un meurtre, laissa tomber sa flèche et, sautant sur le plat-bord, grimpa le long des haubans d'Artimon et fut bientôt hors de portée. Elle banda son arc. « Vois ! Dit-elle, en montrant à l'autre bout du navire, une mince manœuvre qui pendait brisée par l'orage de la nuit. « Vois ce cordage !» La flèche partit en sifflant, et la manœuvre coupée tomba sur le pont. « Ta vie est à moi, tu le sais maintenant !» reprit Anne. « Mais je ne veux point mettre à mort celui que la Providence m'a permis de sauver. Je te fais grâce. « Tu ne m'échapperas pas !» s'écria le commandant transporté de colère. Il donna un coup de sifflet. Les hommes de l'équipage, réveillés en sursaut, se rangèrent autour de leur chef. « Qu'on saisisse cette femme !» dit-il. Les matelots s'élancèrent dans les haubans. Anne se vit perdue. Elle promena son regard à l'horizon. Loin, bien loin, du côté de la chaussée de Saint, elle aperçut une petite voile blanche qui reluisait aux premiers rayons du soleil. Son cœur battit avec force. Elle prononça le nom de Niel Rose de Kermor. Cependant, les matelots, excités par la voix de leur chef, montaient rapidement. Anne fuyait de manœuvre en manœuvre, sautant avec la légèreté d'un oiseau et gardant toujours son avantage. Les matelots, admirant son intrépide courage et se souvenant qu'il lui devait la vie, se sentaient pris de pitié. Mais la voix du commandant les poussait sans relâche. Anne s'arrêtait de temps en temps et tournait son regard vers la voile qui grandissait à l'horizon. L'espérance entrait dans son cœur. La barque approchait. On pouvait maintenant distinguer l'homme qui tenait le gouvernail. C'était bien Niel Rose de Kermor. Anne, toujours poursuivie, avait atteint les plus hautes manœuvres. Elle se suspendit à un mince cordage à l'une des extrémités de la barre du perroquet d'Artimon et cessa de fuir. Aucun matelot n'osa la suivre à ce poste périlleux. « Qu'on la saisisse !» criait Dupont, le commandant exaspéré. « Homme méchant et ingrat !» dit Anne. Dieu te punira, toi qui rends le mal pour le bien. » La barque de Niel croisait maintenant à portée de la voix, au vent. « À moi, Niel !» cria la jeune fille. Et, imprimant à son cordage un mouvement d'oscillation, elle se balança une seconde, lâcha la corde à propos et tomba à la mer. Niel Rose avait entendu le cri et reconnut la voix d'Anne des Îles. Ne se fiant plus à sa voile, il saisit ses avirons et sa barque vola vers le navire. Le commandant avait fait mettre ses embarcations à flot. Mais Anne était une fille de la mer. Après avoir plongé profondément, elle revint à la surface, secoua son épaisse chevelure et se mit à nager. La distance entre elle et son sauveur était grande encore. Cependant, les chaloupes gagnaient sur elle peu de terrain. Et si Anne n'eût été exténuée par la fatigue de sa course aérienne au milieu des cordages, cette dernière poursuite eût été pour elle un jeu. Niel faisait force de rame. Il atteignit enfin la jeune fille et la saisit par ses vêtements. « Ô roche !» dit-elle, en tombant épuisée au fond de la barque. Les chaloupes arrivaient. Elles essayèrent encore de poursuivre quelque temps la barque de Niel, mais celui-ci se riait de leurs efforts. Il s'engagea bientôt au milieu des brisants qui ne manquent nulle part dans la baie. Les chaloupes n'osèrent le suivre et revinrent vers le navire. Dussé-je mourir, j'atteindrai cette femme, dit le commandant anglais qui rugissait de fureur. Au lieu de gagner la haute mer, il courut déborder tout le jour dans cette partie de l'Iroise, résolu de tenter une descente à la faveur de la nuit. Le vieux Don Geoffroy était encore à son poste d'observation lorsqu'il vit la barque de Niel tourner la pointe de la chaussée de Saint. Il reconnut la robe blanche d'Anne des Îles et descendit sur la grève. « Soyez bénis, mes enfants, » leur dit-il. Anne retourna dans sa demeure et Niel suivit Don Geoffroy au couvent. Tant que dura cette journée, Anne resta en prière au pied de son crucifix. Elle demandait à Dieu de la guider et de la soutenir, car son courage faiblissait. Elle aimait Niel Rose de Kermor. « Le ciel a-t-il entendu ?» se disait-elle. « Le serment que je fis autrefois au démon ?» Anne allait se répondre que non, lorsque le signal ordinaire du bon religieux retentit à ses oreilles. Elle se hâta de monter sur le tertre. Don Geoffroy était là, tout pâle et tout tremblant. Derrière lui marchait Niel Rose, la tête basse et avec l'apparence d'un coupable. « Ma fille, dit Don Geoffroy, il nous faut gagner la côte à l'instant. Pourquoi ? Demanda-t-elle. Don Geoffroy jeta un regard sur Niel, dont le front ruisselait de sueur. Anne suivit ce regard et pâlit. Pourquoi ? Demanda-t-elle encore. Niel se couvrit le visage de ses mains et Don Geoffroy tendit les bras vers la côte. Anne leva les yeux. Niel a délaissé son poste, dit-elle d'une voix étouffée. Le sang des naufragés est sur sa main. Le jeune homme ne put répondre que par un sourd gémissement. Quand la nuit fut venue, on vit de grands feux briller à la pointe du Raz, et une multitude d'ombres, se détachant en noir sur ce fond éblouissant, apparurent, exécutant une ronde bizarre et désordonnée. Il y avait encore de l'eau-de-vie, et l'orgie continuait. Ce spectacle ne pouvait laisser aucun doute. Il fallait un naufrage pour approvisionner ainsi les gens de la côte. Anne, le prêtre et Niel montèrent silencieusement dans la barque. Peut-être quelques malheureux avaient survécu. Peut-être était-il temps encore de les sauver. Cependant, le commandant du brick anglais s'était obstiné dans sa mauvaise pensée. Il voulait à tout prix retrouver Anne, et, la nuit tombée, il s'approcha de la côte. Voyant un grand feu allumé sur le Raz, il fit mettre une embarcation à la mer et se dirigea presque seul vers cet endroit. Il comptait imposer à ses bonnes gens par sa seule présence, et, dans ce but, il avait revêtu son bel uniforme brodé d'or et d'argent. ce fut un grand malheur pour lui. Le vent avait changé. Il venait maintenant de terre. Par un singulier concours, la chaloupe du commandant et la barque montée par Anne des Îles voguaient presque de conserve, sans s'apercevoir l'une l'autre. L'Anglais aborda le premier, et pendant que Niel cherchait un endroit pour prendre terre au milieu des rochers, ses deux compagnons et lui furent témoins d'un terrible spectacle. Ils virent l'Anglais prendre terre. À la lueur des torches, ses broderies resplendissaient. Il semblait une statue d'or douée de vie et de mouvement. Les gens de la côte, moitié ivres, éblouis par ce riche costume, entourèrent tout d'abord le nouveau venu avec des cris de joie. C'était encore une épave que leur envoyait la mer. Quand le commandant se vit attaqué, il déchargea ses pistolets, puis, tirant son grand sabre, il se défendit en gentilhomme. Mais Jean Cosquer prit une longue barre de fer, débris du marchand naufragé, et en enfonça l'extrémité dans le brasier. La barre rougit. Jean Cosquer la brandit au-dessus de sa tête et s'élança vers le marin. On entendit un frémissement comme si le fer rouge eût touché de l'eau. Puis le noble costume, tout brodé d'or et d'argent, s'affaissa. L'Anglais n'était plus qu'un tas de chair morte. Le navire était si près de la côte que les marins suivaient eux aussi tous les détails de cette horrible scène. Tant que leur chef fut debout, ils n'osèrent tirer. Mais quand ils le virent tomber, ils poussèrent un cri de vengeance, et tous les canons du navire tonnèrent à la fois, pendant que toutes ces embarcations prenaient la mer. Niel n'eut que le temps de repousser sa barque au large. En un instant, la côte fut envahie. Cette foule, abrutie par l'ivresse, n'essaya pas même de se défendre. Il n'y eut que Jean Cosquer qui, avant d'être tué, fit sentir à quelques marins le poids de son homicide barre de fer. Le commandant fut trop vengé. En vain le bon moine Geoffroy se fit déposer à terre. En vain la fille de Joël se jeta aux genoux des marins anglais. Ils repoussèrent le religieux, ils repoussèrent la jeune fille qui était leur libératrice. Ils tuèrent jusqu'au jour. Quand ils s'arrêtèrent, c'est qu'il n'y avait plus personne à tuer. Ainsi moururent tous les gens de la côte, et le lieu où fut bâtie depuis la ville d'Audierne demeura désert. Niel fit pénitence. On pense que les religieux le reçurent dans leur couvent, où il mourut, réconcilié avec Dieu. Quant à la fille de Joël, voici ce qui advint d'elle. 8 jours après le fatal événement, elle fit venir le bon moine Don Geoffroy dans sa demeure. « Don Geoffroy, dit-elle, il est dans notre famille depuis des siècles un trésor, le trésor des prêtres de saints. J'ai juré, suivant la coutume, de ne révéler son existence qu'à un seul homme, et je vous ai choisi, mon père. » À ces mots, elle décrocha la harpe de Joël, qui rendit un plaintif accord, comme pour déplorer l'anéantissement du dernier privilège, des prêtres des faux dieux. Derrière la harpe de Joël, Anne poussa une pierre qui céda aussitôt. Le vieillard recula, ébahi. Anne avait dit vrai au commandant anglais. Elle possédait plus d'or qu'il n'en fallait pour acheter son vaisseau et 10 autres avec. « Quand vous ne me verrez plus, reprit Anne d'une voix émue, vous irez par la Bretagne, mon père, exhortant les chrétiens pauvres et de bonne volonté à vous suivre sur nos côtes, et vous bâtirez un temple au Seigneur. Vous resterez longtemps encore avec nous, s'il plaît à Dieu, ma fille, dit le moine. S'il plaît à Dieu, mon père. Et maintenant, il faut que je monte dans ma barque. Exécuterez-vous ma volonté? Je l'exécuterai, ma fille. Adieu donc, reprit Anne des Îles. Dites à Niel Rose de Kermore que je prierai souvent pour que Dieu lui pardonne, et que peut-être, s'il avait agi en bon chrétien, la nuit de la tempête. Mais non, ne lui dites pas cela, mon père. Une larme brillait dans les yeux d'Anne, qui reçut la bénédiction du moine et descendit lentement la falaise sans se retourner. Depuis lors, on ne la revit plus à Saint. Don Geoffroy l'attendit durant une année. Puis il prit son bâton blanc et commença son tour de Bretagne. Dans chaque village, il disait aux chrétiens pauvres et de bonne volonté de le suivre. Au bout d'une autre année, il revint à la côte, au lieu où fut bâti depuis Audierne. Laure d'Anne des îles servit à élever un temple au Seigneur. Quand le temple fut achevé, il y avait encore de l'or. Ce que voyant, ceux qui avaient suivi le bon moine Don Geoffroy commencèrent à se bâtir des maisons, et bientôt, au lieu du misérable village des gens de la côte, on vit s'élever une belle ville. Ses habitants furent toujours humains et charitables envers les naufragés de l'Iroise. Ils se rappelèrent longtemps leur origine, et le nom d'Anne des îles fut béni durant bien des siècles. Maintenant tout est oublié. C'est à peine si quelque vieillard pourrait dire comment fut bâtie la ville d'Audierne au département du Finistère, en Bretagne.